Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Quelle relance de l'économie pourrait se faire en respect de l'environnement ? Dans cette sortie de crise sanitaire, la reprise de l'économie est une priorité pour les gouvernements qui redoutent les conséquences industrielles et sociales de la période de confinement. Avant la pandémie, dans un contexte de réchauffement climatique, les questions environnementales étaient au cœur des préoccupations, notamment citoyennes, et des discussions entre les différents acteurs sur ce terrain politique et économique. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? La politique de relance économique aura-t-elle raison des ambitions écologiques ? Le « Make our planet great again » d'Emmanuel Macron est-il toujours d'actualité et envisageable dans un plan d'économie verte ? Économie et écologie, un mariage semble se profiler à l'horizon, mais dans quelles conditions, avec quels outils et quels moyens ? État des lieux et analyse de nos deux invités en direct, Sophie Swatton, philosophe et économiste, enseignante-chercheure à l'Université de Lausanne, présidente de la Fondation d'utilité publique Zoein, et elle est l'auteure du livre « Le revenu de transition écologique mode d'emploi », un livre paru aux presses universitaires de France, et l'économiste Gaëlle Giraud, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées et à Polytechnique, jésuite, ancien chef économiste de l'Agence française de développement, il est président également de l'Institut Rousseau. Et vers 16h30, eh bien, c'est Simon Roger, le rédacteur en chef des pages Planète et Sciences du journal Le Monde, notre partenaire, qui nous fera découvrir l'histoire de la semaine et échangera avec nos invités. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par la fine équipe à mes côtés, Anaï Morales, accompagnée de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Peyri Legras, avec à la technique aujourd'hui Nasser Moussaoui.
Emmanuel Macron et Angela Merkel en visioconférence pour un échange qui va durer 1h30. Au menu de leur discussion, la réponse européenne face à la crise du coronavirus. Paris et Berlin veulent pousser l'Europe vers un plan de relance de 500 milliards d'euros pour limiter la récession.
Ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise.
Un couple franco-allemand désormais uni. Jusqu'ici réticente, l'Allemagne fait donc un geste fort. Elle accepte la mutualisation de la dette au nom de la solidarité.
Nous sommes tous les deux convaincus que la seule réponse est que l'Europe agisse ensemble. L'État national n'a pas d'avenir. Ce qui est clair, c'est que l'Allemagne ne peut réussir que si l'Europe réussit. Cela signifie la paix, la liberté, une économie forte et la prospérité.
C'était un extrait de reportage diffusé sur France 2 le 19 mai dernier. Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros avec un mécanisme de mutualisation de la dette. Gaëlle Giraud, est-ce de bon augure, un bon début selon vous ?
Oui, c'est un bon début au sens où ça signale que ça bouge du côté de l'Allemagne et que nos amis allemands ont enfin compris qu'il faut qu'ils cèdent sur une revendication de longue date qui est de mutualiser les dettes publiques. Maintenant, si vous réfléchissez deux minutes, 500 milliards sur 3 ans divisé par 27, puisque nous sommes 27, ça fait moins de 1% du PIB de chaque pays chaque année. Donc c'est absolument pas au niveau de ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour avoir une sortie de la trappe déflationniste dans laquelle l'Europe est en train de sombrer en ce moment. Qui plus est, la renaissance du couple franco-allemand, certes, tant mieux, il faut l'espérer évidemment, hein, mais simplement pour qu'elle soit effective, il faudra que nos deux pays réussissent à convaincre la coalition des pays du Nord, Autriche, Pays-Bas, et même Suède par exemple, hein, qui viennent s'y opposer,
et le Danemark.
Qu'il faut faire des dons. Et le Danemark, tout à fait, il faut faire des dons et non pas de la dette, parce que si c'est de la dette, bon, on continue d'endetter les pays et on a quasiment pas avancé par rapport à la situation actuelle. Puis troisième remarque, Emmanuel Macron dit lui-même il faut pouvoir venir en aide aux secteurs industriels qui sont les plus affectés par la crise. Certes, mais s'il s'agit d'aller sauver à l'italien en Italie comme on sauve Air France en France, ça n'a aucun sens puisqu'on est en train de ressusciter le monde d'hier, le monde ancien, alors que ce qu'il faut, c'est saisir l'opportunité de cette crise considérable aujourd'hui pour pour lancer les bases du monde de demain. Et puis, dernier point, la question, c'est, ça reste de la dette au niveau européen, donc c'est de la dette mutualisée, certes, mais il faudra la rembourser, cette dette. Si on la rembourse sur 30 ans en augmentant la contribution de chaque pays au budget européen, on n'a pas avancé. En fait, c'est de nouveau de la dette pour les États. Si on la rembourse en créant une nouvelle ressource fiscale, par exemple une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ou bien une taxe sur les GAFAM, ou bien par exemple une taxe sur les transactions financières, alors là, ça devient intéressant. Mais évidemment, il restera encore à multiplier par au moins 3, sinon 4, le volume pour que ça devienne pertinent pour la crise européenne aujourd'hui.
Sophie Swatton, peut-être une réaction sur cette question de l'annonce déjà d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel et de la position de l'Europe.
Oui, alors je pense que ça peut être une bonne nouvelle, mais tout dépend effectivement de ce qu'on entend par relance. Si c'est pour retomber dans le monde comme avant, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et puis effectivement, que ce ne soit pas de la dette, mais que ce soit des subventions, des dons tout simplement, mais assortis également aussi de conditions dont on sait qu'on a cruellement besoin. On ne peut pas se permettre non plus de faire une relance économique standard, comme on a eu l'habitude de le faire, ou dans une vision trop libérale, quand on sait que les dégradations environnementales et sociales sont telles, et on le dit depuis 30 ans, qu'il faut aussi un changement brutal. Donc ces subventions, ok, mais il faut voir aussi dans quelles conditions, que ce ne soit pas de la dette, que ce ne soit pas remboursable, et puis d'envisager également des changements massifs dans des secteurs clés ou également qui puissent être identifiés, avec également un soutien aux initiatives qui font déjà la transition, et pas simplement pour compenser des pertes d'emplois dans le secteur aéronautique, par exemple. Donc ça veut dire ça aussi en amont. Donc travailler à un niveau un peu plus global, mais en cohérence avec les enjeux qui nous attendent dans ce 21e siècle et qui sont colossaux. Parce qu'on le sait, le climat, il est déjà fait. Le climat 2040, il est là et on ne peut pas ne pas en prendre compte.
Et Gaëlle Giraud, Sophie Swatton l'exprime effectivement, il y a ces conséquences écologiques, il y a le réchauffement climatique, il y a la crise sanitaire. Vous le dites vous-même, la pandémie, elle ne sera pas la dernière. Ce serait juste une répétition générale pour vous ?
Oui, tout à fait. C'est certainement une répétition générale de ce qui va nous arriver dans les années qui viennent, au sens où d'abord, premièrement, il y aura d'autres pandémies, c'est-à-dire que la destruction de la biodiversité à laquelle nous nous livrons de manière assez systématique depuis plusieurs décennies aujourd'hui, met au contact l'être humain d'animaux qui sont eux-mêmes au contact des foyers de virus, et notamment des coronavirus. Donc dans le cas du virus actuel, c'est très vraisemblablement un coronavirus donc qui vient de la chauve-souris, qui a transité par le pangolin et qui est arrivé à Wuhan. Et puis précédemment, c'était le chameau, et puis la prochaine fois, ce sera je ne sais quel animal qui fera l'intermédiaire entre chauve-souris et nous. Donc premièrement, il y aura d'autres pandémies, des zoonoses de cette nature. Ensuite, il y aura d'autres pandémies liées au réchauffement climatique. On sait déjà que le réchauffement va multiplier les pandémies tropicales du type malaria. La malaria s'est déjà réinstallée en Italie il y a 2-3 ans, alors qu'elle avait fui l'Italie il y a 100 ans déjà. Par ailleurs, la fonte du pergélisol ou du permafrost en Sibérie va libérer aussi des
mégavirus,
des bactéries et des virus qui, oui absolument, qui sont extrêmement dangereux. Donc on peut penser notamment à l'anthrax et à la grippe espagnole de 1918. Donc on n'en a pas du tout fini avec les pandémies. Donc il y a un enjeu colossal aujourd'hui à ce qu'il y ait une vraie coopération internationale, parce qu'on ne se débarrasse pas d'une pandémie tant qu'il reste un pays qui laisse pulluler le virus, c'est juste pas possible. Et la seule manière dont on a réussi à se débarrasser de la variole dans les années 70, c'est quand tout le monde, sans exception, a mis en place une campagne de vaccination efficace. Donc il faut réinventer aussi, dans le même temps, un multilatéralisme international, alors que, vous l'avez remarqué, le Conseil de sécurité de l'ONU est complètement paralysé et qu'on n'a plus du tout le leadership américain.
Donc au moins à l'échelle de l'Europe, comment faudrait-il agir pour imaginer donc cette relance économique en respect de l'environnement ? Par quoi commencer, Gaëlle Giraud ? Le secteur public ?
Alors oui, juste avant, je voudrais faire un écho à ce que disait Sophie il y a un instant, avec à quoi je souscris entièrement. Je pense qu'il faut faire très attention au fait que nos politiques vont être certainement obsédées par la question de l'hémorragie en termes de chômage. On aura certainement des déconvenues majeures en septembre, une fois que le dispositif de chômage partiel sera arrivé à bout de souffle. Et là, on peut avoir quelque chose comme 15-20% de chômage, c'est possible, en France. Donc, mon point, c'est de dire, ne cédons pas à la panique au motif qu'il y aura beaucoup de chômeurs pour essayer de ressusciter les emplois d'hier. Alors après, la question que vous posez, c'est par où commence-t-on ? Quel que soit le scénario, disons, de reconstruction écologique qu'on essaie de mettre en œuvre, il y a trois grandes étapes qui sont connues depuis au moins une dizaine d'années, qui sont les mêmes partout. Quel que soit aussi, si vous voulez, le bouquet énergétique que vous voulez mettre en place dans la décennie 2030 en France. Autrement dit, quelle que soit la place du nucléaire, de toutes les manières, il faut procéder à la rénovation thermique des bâtiments, en particulier des bâtiments publics. Ça, ça crée beaucoup d'emplois, ça réduit notre dépendance au pétrole, ça améliore la balance commerciale, et c'est tout à fait finançable. C'est quelques dizaines de milliards chaque année, mais il y a des plans de financement de ces affaires-là, via notamment la garantie publique, qui fonctionne très bien. Ça, c'est la première opération. Deuxième grande opération, c'est la mobilité verte. Donc, il vous faut essentiellement la voiture électrique, du fret ferroviaire, et réhabiliter le train, et mettre fin quasi entièrement aux déplacements en avion, au moins aux déplacements intranationaux en avion. Et puis, la troisième opération, qui est la plus délicate, mais qui est aussi très importante, c'est d'un côté le verdissement de l'agriculture. Donc ça, c'est le grand thème de l'agroécologie. Il faut réformer entièrement la PAC. Et puis, par ailleurs, le verdissement des processus industriels.
Et donc relocaliser certaines entreprises et réindustrialiser de façon verte pour finalement être à l'encontre d'ailleurs du schéma macroéconomique qui jusque-là avait entraîné la délocalisation majeure.
Oui, tout à fait. En fait, ce schéma-là, il est moribond aujourd'hui parce que ce qui a favorisé la délocalisation en Europe et aux États-Unis, d'ailleurs, pendant 30 ans, c'était un schéma dans lequel, au fond, les Occidentaux avaient délégué à la Chine la responsabilité d'être l'atelier de la planète grâce au salaire très bas des ouvriers chinois. Et puis, les excédents commerciaux chinois qui ont atteint des sommes colossales en 2006, 2007, 2008, quelque chose comme entre 2 et 3 000 milliards de dollars chaque année, ce qui était l'équivalent du PIB français. Cette manne-là était réinvestie dans la sphère financière occidentale. Donc, on était deux fois gagnant, parce que notre propre argent revenait chez nous. Donc ce circuit-là est grippé après le krach de 2008-2009. La Chine ne veut plus jouer avec nous sur nos marchés financiers, et elle a bien raison, puisque nous ne les régulons pas, donc ces marchés sont extrêmement irrationnels et dangereux. Et par ailleurs, la Chine a décidé de réorienter sa production industrielle sur son propre marché intérieur. Pour ça, elle a besoin évidemment d'une classe moyenne capable d'absorber son surplus industriel, et donc elle a laissé filer ses salaires essentiellement sur la côte est chinoise. Du coup, c'est plus intéressant aujourd'hui pour les entreprises occidentales de se délocaliser en Chine. Alors, certains vont se délocaliser au Vietnam, en Thaïlande, en tout cas en Asie du Sud-Est, mais il faut pas être grand clair pour comprendre que l'Asie du Sud-Est elle-même va suivre exactement la même trajectoire que la Chine, et que donc la grande question à plusieurs milliers de milliards, c'est l'Afrique sera-t-elle la prochaine usine du monde ? Alors, on peut en parler si vous voulez, mais disons, je suis très sceptique sur les possibilités, en tout cas à court et à moyen terme, d'une industrialisation massive de l'Afrique. Du coup, ça veut dire que si on veut pas retourner à l'âge de pierre en Europe, il n'y a pas d'autre solution qu'une réindustrialisation verte, massive, avec en leader un État stratège qui prend en compte le moyen et le long terme dans l'intérêt de tous. Donc une réindustrialisation massive de l'Europe.
Ce qui pourrait aussi répondre à la demande de résilience et d'autosuffisance, cette demande qui a émergé plus fortement avec la pandémie en cours. Sophie Swatton, dans ce schéma-là, de quelle façon est-ce que le revenu de transition écologique que vous avez travaillé, que vous étudiez, qui est déjà expérimenté sur le terrain, pourrait être d'un apport essentiel ?
Alors oui, c'est un dispositif, un outil, si je peux dire, qui s'inscrit avec d'autres mesures. Donc c'est pas forcément un outil miracle en soi, mais qui ne vaut que si on a bien compris les enjeux écologiques et sociaux dont on vient de parler, avec ces pandémies qui ne sont qu'un, cette pandémie qui n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend, avec des méga-feux, avec des périodes de sécheresse, avec des catastrophes naturelles, montée du niveau des mers, etc., qui menacent également notre alimentation, notre souveraineté alimentaire. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête pour que cette réindustrialisation que l'on appelle de nos bons voeux intègre également une refonte aussi, une nouvelle vision de la manière dont on mange, dont on consomme et dont on produit. Et donc quand on a bien ça en tête, on peut comprendre qu'effectivement un revenu de transition écologique est un dispositif qui a une visée de relocalisation à échelle territoriale, donc département, ça peut être ville, ça peut être commune. Alors l'idée c'est d'en faire aussi au niveau des régions, des biorégions, donc un instrument intéressant pour soutenir bien sûr des initiatives qui font sens dans l'agroécologie dont on vient parler, permaculture, le textile, la mobilité bien sûr, donc des gens qui font déjà, alors qui font quoi ? Qui ont une activité économique inscrite dans ces fameuses limites planétaires, qu'on ne peut plus se permettre de dépasser aujourd'hui si l'on veut rester sous la barre des 2 degrés. Alors 2 degrés, on sait qu'on y sera en 2040, ça c'est déjà joué. Mais en tout cas, si on ne veut pas encore plus perturber ce système Terre qui va déjà pas très bien.
Mais alors concrètement, Sophie Swatton, comment ça fonctionne? C'est-à-dire quelqu'un a un projet, comment est-ce qu'il peut lancer ce projet et prétendre recevoir un revenu de transition écologique pour lancer ce projet? Et voilà, comment ça fonctionne très très concrètement?
Alors très concrètement, l'idée c'est d'identifier des freins. Aujourd'hui justement, quand quelqu'un veut lancer une initiative, indépendamment du système de protection sociale, je dis parce que c'est très important, donc c'est un système qui vient en plus et qui ne vient pas mettre en péril la protection sociale. Donc souvent, quelqu'un qui veut monter par exemple du low-tech ou un ingénieur qui voudrait faire un petit peu plus de biosourcé par exemple, alors souvent il manque d'un revenu de départ, il faut du temps, une formation. Un agriculteur qui voudrait arrêter le glyphosate et passer à autre chose, il se dit je veux bien mais comment on fait? Donc il faut une formation et un accompagnement. Donc très concrètement, le revenu de transition écologique est une manière de vous apporter un revenu garanti ou un complément de revenu assorti en plus d'une formation adaptée selon le secteur ou le changement ou cette conversion écologique. On parle de nouveaux métiers là-dedans que vous voulez opérer. Et puis troisièmement, c'est une mise en réseau. Les gens ne veulent pas être tout seuls. Donc c'est comment justement sur un territoire donné, une région, on les met ensemble et puis participent ensemble dans un modèle économique à échelle territoriale pour ne pas juste simplement produire des tomates ou des carottes et puis aller les vendre à des gros groupes de distribution qui vont justement fausser ce rapport prix, un rapport prix dont on sait aujourd'hui que les agriculteurs ne le supportent pas. C'est très très peu, la valeur du prix réel n'est pas du tout pris en compte par rapport au travail qui est fourni et puis par rapport à ce qui devrait revenir également dans leur portefeuille. Donc c'est comment toutes ces personnes-là, on les met en réseau. On a beaucoup parlé de circuits courts ces derniers temps. Donc comment est-ce que justement on va mettre en contact des maraîchers, des agriculteurs, des producteurs avec des cantines scolaires, des restaurants, des épiceries locales, que les collectivités dont on a besoin, publiques, s'engagent également à soutenir dans ces circuits courts cette production pour qu'on puisse à la fois comprendre ce que signifie le terme résilience, donc comment créer de la résilience sur des territoires en relocalisant l'économie, mais en créant également des emplois, parce que je crois que la problématique de l'emploi, elle sera fondamentale dans cette relance économique et que le sens du travail va être au cœur, est au cœur du dispositif d'un revenu de transition écologique, comme il sera au cœur des débats qu'on pourra avoir sur le monde de demain.
Et alors, qui finance ?
Je dirais que ce qu'on met en œuvre dans les territoires, ce sont des coopératives de transition écologique, c'est-à-dire qu'on fait participer les différents acteurs d'un territoire. Donc, c'est pas une création ex nihilo, à partir de rien. C'est-à-dire que sur chaque territoire, on identifie les communs de ce territoire. Alors, c'est quoi les communs? Ce sont les ressources naturelles dont on dispose, en eau, en forêt. Et puis, qui fait déjà quoi? C'est-à-dire les associations, les entreprises locales, les banques qui s'engagent. Je pense aussi à la NEF, Crédit Coopératif, etc. Donc, on repère les différents acteurs et eux-mêmes participent de ce modèle un peu coopératif où ils mettent ensemble, subventionnent, comme à l'époque au 19e, on parlait beaucoup de ces caisses de secours, donc avant que l'État-providence puisse arriver. Donc, comment crée donc ce modèle économique? En partie financé par les apports de ces différents membres, d'accord, par des cotisations, par des apports, et bien sûr par un apport par les collectivités. Donc les plans de relance ne devraient pas oublier. C'est-à-dire comment les régions peuvent aussi ne pas prêter, ne pas simplement attendre un intérêt, mais investir. Comme dans une entreprise traditionnelle, on a besoin, c'est du bon sens, on a besoin de capitaux de départ pour investir, pour développer une activité, et c'est exactement pareil. Donc, on a besoin d'investissements publics, on a besoin d'apports du secteur privé, et puis on a besoin que se crée un vrai modèle économique résilient, et je le dis encore, inscrit dans les limites planétaires, pour qu'au bout de 4 à 5 ans, la moitié des revenus de transition écologique puissent être autofinancés par ces différentes coopératives créatrices d'emplois et de richesses sociétales au-delà de la seule rémunération des actionnaires.
Et aujourd'hui, expérimenté dans des villes de France, Grande-Synthe, Épinal, Limoux notamment, et je crois qu'il y a différentes collectivités qui vous ont approché, Sophie Swatton.
Oui, alors Épinal, pas encore, mais effectivement, il y a 2 mémoires de recherche en lien aussi avec les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont des partenaires dont on est très proche sur les méthodologies d'accompagnement, c'est-à-dire ne pas imposer un travail à des personnes, mais partant de leurs compétences et de leurs désirs. de dire quels seraient ces nouveaux métiers de demain, hein, dont on entend beaucoup parler, mais qu'on a du mal quelquefois à voir émerger, à part de poser des panneaux solaires, hein, et d'être extrêmement diplômé. Donc exactement, on est dans le département de l'Aude, Nouvelle-Aquitaine, et nous avons énormément de demandes de régions, de départements, dont des départements aussi d'outre-mer. Et ben aujourd'hui, voilà, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire, on est dans des recherches-actions et il faudrait maintenant pouvoir changer d'échelle pour être vraiment générateur de nouveaux indicateurs. On en parle aussi beaucoup, hein, nouveaux indicateurs de richesse, de bien-être. Et comment est-ce qu'on crée ces emplois de demain, nous permettant de rester dans une économie raisonnable avec un taux de croissance à 1%, on va dire.
D'accord. Gaëlle Giraud, je me tourne vers vous. Ce revenu de transition écologique, vous l'avez probablement ou croisé, ou vu, ou observé. Est-ce que ça fait partie de ces solutions, de ce qu'il faudrait mettre en place? Et puis, on se pose aussi une autre question, c'est est-ce que les États pourront, ou les collectivités pourront tout financer? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un rôle peut-être du secteur privé, des banques aussi à jouer?
Comme Sophie l'a souligné, il ne s'agit pas de se substituer aux allocations ou aux aides sociales déjà en place. Et j'attire l'attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans les débats publics sur les revenus garantis, quelles que soient les modalités. Donc là, c'est un revenu qui est tourné vers la transition écologique, et évidemment, c'est très bien. Mais simplement, il faut que tout le monde comprenne qu'il existe des propositions de revenus universels qui ne sont même pas conditionnées au fait qu'on s'engage dans la transition écologique, simplement qui se substituent à tout le reste. En fait, ça, c'est des revenus de subsistance destinés à nous esclavagiser. Il faut comprendre ça. Donc, c'est très important que Sophie ait dit, c'est des revenus qui viennent s'additionner aux subventions, aux allocations ou aux aides sociales déjà existantes. Ensuite, moi, je suis très favorable à ces dispositifs-là, qui doivent pouvoir être couplés aux territoires zéro chômage, qui sont un vrai succès pour là où ça a été lancé aujourd'hui. Je pense qu'il faut certainement réfléchir aussi à la question de l'articulation de ces propositions avec des monnaies locales. On peut très bien imaginer, dans les endroits où, par exemple, vous avez des collectivités locales qui sont elles-mêmes trop endettées, et ça m'amène à une deuxième question qui est la question de qui finance. Mmh. Dans les endroits où les collectivités locales sont trop endettées, elles peuvent très bien imaginer de créer une monnaie locale qui permette de financer ces investissements, en tout cas ces financements initiaux, pour initier la pompe 1 de la transition dans ces grandes coopératives régionales ou territoriales, disons, avec de la monnaie qui est d'abord distribuée. Donc ça, c'est ce qu'on a, monnaie libre, c'est pas de la monnaie dette, exactement comme on pourrait le faire au niveau européen aujourd'hui, donc la monnaie hélicoptère, pour reprendre l'expression qui est à la mode aujourd'hui. Mais on pourrait très bien le faire au niveau local, territorial, avec ce qu'on appelle des monnaies complémentaires. Maintenant, pour répondre à votre question, qui finance?
Alors, et le rôle des banques aussi, hein, Gaëlle Giraud, parce que jusque-là, ouais, les banques ont plutôt financé des industries non vertueuses face au réchauffement climatique, ça c'était avant la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un autre cadre?
Non, malheureusement non. Les banques françaises continuent de financer les hydrocarbures fossiles. Pour 7 euros de financement d'énergie par les banques françaises, on a 1 euro d'énergie renouvelable et au moins 6 euros d'hydrocarbures fossiles. Donc nos banques continuent de financer l'ancien monde. Ça a été dénoncé par des ONG, Oxfam et d'autres. Bon, et je vois pas du tout aujourd'hui de changement de business model, comme on dit, de la part du secteur bancaire français. Je vois pas non plus comment le secteur bancaire français aujourd'hui, très fragilisé par l'héritage de la crise de 2008 qu'il n'a toujours pas réglé en vérité, même s'il prétend le contraire, est très fragilisé aussi par la dépression économique qui est déjà la nôtre et qui va être très sévère dans les mois qui viennent, pourra allègrement financer tranquillement un immense plan de transition écologique en France. Donc il va falloir certainement qu'il y ait d'autres dispositifs. Ce serait pas impossible du tout qu'on ait besoin plutôt de venir au secours de nos banques, à mon avis, plutôt que d'attendre des banques qu'elles viennent au secours de l'économie réelle française. Donc il faut imaginer d'autres dispositifs. Du côté du secteur privé industriel, il faut prendre conscience du fait qu'il est très endetté et que le privé en France, le secteur privé français, est plus endetté que le secteur public. Le ratio dette publique sur PIB avant la pandémie, c'était en gros 100%. On va certainement monter à 115%, voire à 120% dans les mois qui viennent. Mais le ratio dette privée sur PIB en France, il était avant la pandémie de 130%. Et il va augmenter, forcément.
Oui, justement, Gaëlle Giraud, quand vous parlez de ces dettes-là, hein, publiques et privées, est-ce que la tentation ne sera pas celle de l'austérité budgétaire?
Si, bien sûr, ce serait une énorme bêtise colossale. L'austérité budgétaire vous tue, vous mourrez en bonne santé, simplement vous êtes mort. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Hein. Donc on a infligé un plan d'ajustement structurel assassin à la Grèce, on a détruit l'économie grecque, on a déchiré la société grecque, et le ratio dette publique sur PIB en Grèce aujourd'hui est encore de 180%, exactement comme il l'était en 2010, au moment de l'éclatement de la crise de la dette publique grecque. Donc on n'a pas avancé d'un centimètre sur la question de la dette publique grecque. En dépit profit de la réduction de 25% du PIB grec. Voilà. Donc l'austérité budgétaire, c'est le pire des remèdes dans la situation de déflation qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire. Donc non pas un plan de relance keynésien, si vous voulez, version 1981 François Mauroy. Ce qu'il faut, c'est un plan de reconstruction écologique, de réindustrialisation, de relocalisation, avec, dans un certain nombre de territoires, des revenus de transition à la façon de ce que vient de décrire Sophie, et des solutions de financement au niveau national et au niveau européen, parmi lesquelles, à mon avis, il faudra bien tôt ou tard qu'on envisage la question de l'annulation de la dette publique des pays de la zone euro, qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, par la BCE. Hein, donc la BCE détient aujourd'hui dans son bilan 2200 milliards d'euros de dette publique, des pays membres de la zone
euro. Pour l'Europe,
oui. En fait, c'est 420 milliards pour la France et 2200 au niveau de la zone euro. Oui. Donc, c'est les titres de dette publique que la BCE, en fait, a racheté depuis 2015 dans le cadre de son programme de politique monétaire non conventionnelle, dit quantitative easing. Bon. Ces titres, en fait, c'est de la dette publique que nous devons à nous-mêmes et qui est détenue par la Banque Centrale. Si on l'annule, ça n'empêche aucunement la Banque Centrale d'opérer. Elle peut continuer à créer des euros, ça ne lui coûte strictement rien. Elle peut très bien opérer avec des fonds propres négatifs. Et les pertes que ferait la Banque Centrale Européenne ne sont exigibles auprès de personne, contrairement à ce qui est répété en boucle par un certain nombre d'économistes qui, je crois, ne savent pas ce que c'est une Banque Centrale. Donc, au fond, le seul blocage à l'annulation de la dette publique détenue par la BCE aujourd'hui est un blocage politique. C'est-à-dire que, évidemment, un certain nombre de personnes se disent, voilà, mais si on commence à annuler les dettes publiques, certains vont croire qu'on a droit de s'endetter à libitum. Évidemment, il faut qu'on ait un discernement et un débat démocratique en Europe sur ce qu'on fait avec la dépense publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser à tort et à travers et faire n'importe quoi. Simplement, entre 10 ans de dépression économique extrêmement sévère, probablement pire que celle qu'on a connue dans les années 30, et un vrai débat sur comment est-ce qu'on fait de la dépense publique intelligente, parce que dans des situations de crise, on est capable d'annuler la dette publique éditée par la BCE, je choisis très nettement la deuxième option.
Sophie Swatton, sur ces questions-là, justement, de l'annulation partielle des dettes publiques par la BCE, sur le fait que la politique d'austérité budgétaire ne serait pas forcément la solution, qu'il faut une acceptabilité sociale aussi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je souscris complètement. Il faut envisager effectivement tout simplement l'annulation des dettes. On ne va pas s'en sortir. Et puis j'irai même aussi vers l'idée aussi d'envisager une forme de nationalisation de certaines banques, hein, qui sont aujourd'hui, comme le disait Gaët Giraud, donc en faillite potentielle, hein, sur certaines, mais de peut-être pas recommencer comme ça avait été le cas en 2008, avec une aide radicale sans contrepartie de l'autre côté. Et dans toutes les mesures, y compris celle d'un revenu de transition écologique, hein, qui pourrait d'ailleurs être assortie de mesures comme une TVA circulaire, il y a plein de mesures extrêmement aussi intéressantes qui pourraient alimenter un fonds de redistribution et de soutien à ces projets, donc quelque chose de complémentaire. Donc il est fondamental qu'il y ait une forme d'acceptabilité des gens et des personnes. Donc ça veut dire plus de démocratie aussi, et plus de sensibilisation et d'écoute à travers une remontée, en bon français, un bottom-up. Parce que les gens ont des propositions aussi. Donc austérité, ça ne va pas le faire, ça ne va pas jouer. Une forme d'austérité, de demander encore plus aux personnes qui viennent de vivre dans le confinement, dont les violences conjugales ont augmenté dans certains foyers, la précarité, le chômage, on ne peut pas demander encore plus, ce n'est pas possible, sans une forme de contrepoids et de soutien sur le volet social et écologique. Donc voilà, je serais plutôt pour effectivement une annulation de la dette et puis effectivement de faire attention avec un mécanisme également de financement qui pourrait effectivement intégrer les monnaies citoyennes, les monnaies complémentaires et qui crée de la résilience également sur les territoires. Donc ça, c'est une voie effectivement envisagée, ainsi que je pense aussi au rachat des terres, je pense aussi au commun. Quand on parle de revenus de transition écologique, on pense simplement à un revenu, mais il y a aussi d'autres formes de prestations, notamment sur le loyer, sur l'usage, sur les acquis, qui sont aussi importants dans une perspective de régionalisation et de relocalisation de la production.
Nous poursuivons cette discussion avec tous les deux, hein, Sophie Swatton et Gaël Giraud, dans un instant, parce qu'il est temps d'écouter sur France Culture le choix musical du jour. C'est un choix de notre réalisateur Peyré Legras, qui a souhaité rendre hommage à Mori Kanté, ce chanteur-musicien guinéen décédé le 22 mai dernier, des suites d'une longue maladie. On écoute sa chanson « La Guinéenne ». La Guinéenne. Lani avion kono, nyemere lanka nunema. Maye
ni da kanunte ya bele mande shirindi anamo kelena miri manyu weyala kelena kasi manyu weyala quand j'ai mal tu es mon remède tu es mon médicament quand j'ai le chagrin quand j'ai mal tu es mon remède tu es mon médicament quand j'ai le chagrin.
Émission de cause à effet, les magazines de l'environnement consacrés aujourd'hui à la politique de relance économique dans cette sortie de crise et au mariage possible avec les enjeux environnementaux. Nous en discutons en direct avec Sophie Swatton, philosophe et économiste, enseignante-chercheure à l'Université de Lausanne, présidente de la Fondation d'utilité publique Zwine et auteure du livre, en tout cas son dernier livre, Le revenu de transition écologique mode d'emploi, livre paru aux presses universitaires de France. Et avec nous, l'économiste Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, également à Polytechnique. Il est aussi fellow associé à l'Institut des études avancées de Nantes et président de l'Institut Rousseau. Mais tout de suite, place à l'œil du monde planète. Bonjour Simon Roger.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes le rédacteur en chef des pages Planète et Sciences du journal Le Monde, notre partenaire, et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'histoires de résilience et d'innovation qui se déroulent en Afrique, avec tout d'abord le Burkina Faso, où circuits courts et paniers bio suscitent, si j'ai bien compris, l'engouement dans cette période de crise sanitaire.
Oui, tout à fait. J'aurais pu vous proposer donc la Guinée, mais je vous emmène au Burkina Faso, avec la correspondante du Monde Afrique au Burkina, Sophie Douce, dont nous avons repris un reportage dans les pages Planète, et plus précisément dans la ferme de la famille Bellem-Niégré, c'est en périphérie de Ouagadougou. On y trouve des courgettes qui fleurissent sous les maïs, des poireaux embrassant des papayers, plus loin des fraises, voisinant avec des pommes de terre. Donc on retrouve le principe de l'association de culture qui est chère à l'agroécologie. Il y a aussi un chandrier, un poulailler, une étable. Et Razak et son père ont de quoi répondre à la demande locale qui progresse avec l'épidémie du coronavirus. Car la crise a mis en lumière la vulnérabilité de ce petit pays sur le plan alimentaire. Et en dépit de la place de l'agriculture dans l'économie nationale, où 80% de la population vit l'agriculture, le Burkina dépend fortement des importations pour s'approvisionner en produits de base comme le riz, la farine, le lait, l'huile. Et avec la fermeture des frontières, avec la désorganisation des échanges commerciaux suite à la pandémie, c'est la sécurité alimentaire de ce pays, de toute l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique qui se trouve menacée. Et la ferme de la famille Bellem-Niégré prend tout son sens, car depuis quelques semaines, elle a élargi sa clientèle et livre déjà plus de 50 paniers bio chaque semaine dans la capitale burkinabé. Razak et son père ont aussi créé une association pour promouvoir l'agroécologie. Ils ont déjà formé plus de 1000 étudiants, des agriculteurs aussi, d'Afrique, mais aussi d'Europe, à ces techniques. Peut-être qu'il faut le préciser, le Burkina a une histoire particulière avec l'agroécologie, car peut-être le savez-vous, les années 80...
Et oui, Pierre Rabhi a œuvré là-bas, je crois.
Hein. Exactement. Thomas Sankara avait à l'époque demandé aux paysans et aux penseurs français Pierre Rabhi de l'aider à avancer dans cette voie de l'autosuffisance alimentaire. Rabhi était venu sur place, avait développé un centre d'agroécologie avant que l'assassinat de Sankara en 1987 ne mette un coup d'arrêt brutal au projet. Donc Razak est un peu jeune, mais il connaît l'histoire de son pays et surtout, il nous le dit dans ce reportage de Sophie Douce, le coronavirus doit nous servir de leçon. On a trop forcé la nature, on subit déjà les effets du changement climatique. Il faut repenser local.
Et alors Simon Roger, dans les villes en Afrique, donc dans le domaine de l'innovation, des idées fleurissent aussi, comme avec ce Fab Lab au Mali.
Oui, alors autre histoire intéressante, là encore qu'on a puisé dans les papiers du Monde Afrique. Cette fois-ci, c'est Mathéo Maillard, le correspondant à Bamako, qui nous le raconte. Et c'est lui qui nous fait la visite. Donc on se trouve cette fois-ci, non pas dans une start-up rutilante, mais dans un garage aménagé en labo. On est en périphérie de Bamako. Et on est surtout dans un fatras de câbles électriques, d'ordinateurs, de perceuses, d'ampèremètres. C'est là, dans cet endroit, que les quatre jeunes ingénieurs testent leurs innovations pour lutter contre le coronavirus qui est présent au Mali depuis la fin du mois de mars. Ils ont d'ailleurs trouvé un nom tout trouvé pour ce labo, ils l'ont appelé Donilab. Doni signifiant savoir en bambara. Et ces quatre jeunes ne manquent pas de savoir. En un mois, ils ont déjà mis au point plusieurs outils connectés, notamment un robot pulvérisateur qui nettoie les chambres des hôpitaux, une station de lavage qui est une station automatisée, et surtout, c'est leur projet un peu phare, un prototype de respirateur artificiel. Ils ont même réussi donc à présenter leur machine à l'hôpital public Point G, qui est le plus grand du Mali, et l'hôpital se propose de les aider à affiner ce prototype. Donc ils imaginent, ils espèrent donc que ce projet, ce premier modèle, verra le jour rapidement, si les tests évidemment sont concluants. Et après, ils lanceront une collecte de fonds pour financer 20 premiers appareils. Et pour vous donner une idée, le Mali, donc pays de à peu près 19 millions d'habitants, ne compte aujourd'hui que 56 respirateurs. Ils en ont commandé 60 autres à la Chine, mais qui ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines. C'est dire donc l'enjeu qu'en présente les respirateurs artificiels. Autre chose à signaler, et ce que raconte Mathéo donc, dans son reportage, le Donilab donc, de ces quatre jeunes prévoit de diffuser gratuitement les plans de ce respirateur. Et ils le disent, on n'est pas dans une logique de brevet, mais du partage libre de la connaissance acquise pour le bien de tous. Donc voilà comment s'exprime Youssouf et ses trois compères. Et ils le disent aussi à la fin du reportage, l'Afrique peut apporter de la compétence, de l'intelligence et de l'innovation. Et j'ajouterais juste pour finir des idées. Et en fait, ce reportage est issu d'une série que je voulais juste vous signaler. Donc, l'Afrique a des idées, le nom d'une série de Monde Afrique qui démarre avec ce reportage. Et d'autres épisodes seront à découvrir prochainement, notamment un sujet sur la Tunisie, où une application permet de combattre les fake news sur le virus, un reportage au Sénégal, avec un petit robot développé par des étudiants, et enfin un reportage sur le Soudan du Sud, autour d'un projet éducatif innovant.
Merci Simon Roger, vous restez juste un tout petit peu avec nous, parce que nos invités auront peut-être quelques questions à vous poser. Je me tourne donc vers eux, Sophie Swaton et Gaël Giraud. Gaël Giraud, peut-être l'Afrique face à la pandémie, c'est une question qui vous préoccupe, on imagine.
Oui, certainement, d'autant que, en fait, si je suis bien informé, en réalité, le virus fait assez peu de ravages en Afrique subsaharienne à cause de la très grande jeunesse de la population, qui est beaucoup mieux immunisée que la nôtre en Europe. Donc la grande difficulté à laquelle l'Afrique fait face aujourd'hui, ce sont les conséquences du confinement, pas tellement de la pandémie. Et donc ça illustre, à mon avis, de manière hélas exemplaire, le fait que l'énorme problème devant lequel nous nous trouvons, c'est pas tellement une pandémie qui, au fond, y compris en Europe, va se révéler dans quelques mois, et je suis un tout petit peu désolé de devoir dire ça, c'est sans doute paradoxal pour ceux qui ont perdu des proches, hein, mais qui va se révéler comme ayant été assez peu létal, mais en revanche dont les conséquences sont catastrophiques à cause du ratage complet de la réaction sanitaire d'un certain nombre de pays. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont très bien réagi, hein, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam, la Grèce a très bien réagi, paradoxalement, et puis il y en a un certain nombre d'autres, dont la France, qui ont très mal réagi. En fait, nous n'aurions probablement même pas dû avoir besoin de nous confiner si nous avions procédé à des dépistages systématiques suffisamment tôt. L'Islande a dépisté plus d'un mois avant le premier cas de personnes positives au test Covid en Islande.
Sophie Swaton, votre regard à vous sur l'Afrique ?
Alors l'Afrique, je devais partir au Burkina Faso juste aux vacances de Pâques, en fait, profiter de ça pour une mise en œuvre de revenus de transition écologique. Effectivement, on a aussi beaucoup de demandes dans les pays du Sud. Et alors, bon, je ne communique pas trop là-dessus parce que, voilà, on ne peut pas être non plus sur tous les fronts, mais en même temps, on a beaucoup de chercheurs sur place. Et je ne suis absolument pas étonnée par ce qu'on vient d'entendre donc sur le Burkina. Et puis, je voudrais revenir effectivement sur le Fab Lab et le Low-Tech. Et sur, c'est des choses qu'on retrouve aussi, les Fab Lab et le Low-Tech à Grande-Synthe. Donc, en fait, paradoxalement, il y a énormément aussi de points communs sur l'émergence de nouveaux métiers au-delà des frontières. Et l'Afrique, je pense, est vraiment porteuse de solutions innovantes. Et ce que je me demandais, c'est s'il y avait des échanges. Moi, personnellement, ça me ferait rêver. Des échanges de jeunes ingénieurs africains et puis en France également. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements aussi en France de ces jeunes qui disent on a été formés pour faire de la qualité et puis on n'a pas du tout envie de faire l'obsolescence programmée. On a envie de faire des incassables, des lave-vaisselles qui durent, etc. Et donc, je me demandais simplement comment peut-être développer aussi plus de collaboration qui ne soit pas dans une version du développement, de l'aide au développement telle qu'on l'a connue, hein, pour plus libéraliser, mais au contraire, pour mettre en avant ce que j'ai trouvé extrêmement touchant et bienvenu, cette économie de la coopération, qui est de dire on ne sait pas trouver des vaccins ou des solutions pour les vendre, mais aussi pour échanger. Et ça, je trouvais ça intéressant, et donc je me demandais s'il y avait simplement des collaborations qui étaient déjà mises en œuvre. sachant que ce qui arrive aussi en Afrique, c'est un peu pareil aussi en Bolivie, en Amérique du Sud, hein, où les gens meurent aussi de faim et plus des conséquences économiques du confinement que du virus lui-même, même si bien sûr ce dernier reste très meurtrier.
Simon Roger, est-ce que vous avez quelques éléments peut-être pour répondre à la question que se pose Sophie Swatton, à savoir est-ce qu'il y a potentiellement des échanges qui peuvent se faire comme ça entre ces pays d'Afrique et puis d'autres pays européens ou ailleurs?
Alors, je peux malheureusement pas répondre à la question. Je peux envoyer un petit mail à Mathieu Maillard, si vous voulez, ou Sophie Douce, pour leur poser la question directement. Mais en plus, sérieusement, ce que j'ai aussi appris en lisant ce reportage, c'est que les outils qui sont un peu développés par ces jeunes, notamment les quatre jeunes qui sont à Bamako, c'est des outils aussi, des outils Internet qu'on trouve à l'échelle internationale. Et par exemple, leur Fab Lab, leur Donny Lab, en fait, ils s'inspirent de données et d'informations qui sont échangées par le MIT, donc la grande université américaine. Donc je ne sais pas s'il y a des échanges plus précis que ça, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que la bulle ou la sphère d'Internet permet aussi, en tout cas, de se connecter les uns aux autres. Et ce que je trouve intéressant dans ce que disent les jeunes, c'est aussi cette notion qu'on pourrait peut-être décliner sur d'autres sujets, qui est de savoir, on souhaite être dans un partage de la connaissance pour le bien de tous. Et c'est aussi peut-être une phrase qu'on pourrait essayer de décliner sur la question des vaccins, qui est une question qui se pose et qui s'est posée pendant la session de l'OMS là récemment. Cette notion de pas de course monétaire financière, mais de partage des connaissances pour le bien de l'ensemble.
Merci Simon Roger, et je précise que les articles de Sophie Douce et pour le Burkina Faso et Mathéo Maillard pour le Mali dans la série L'Afrique a des idées sont à retrouver sur le site dumonde.fr, sur celui de notre émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, on se posait la question avant, effectivement, de porter notre regard sur l'Afrique. Gaël Giraud, on se posait la question de cette relance économique. On avait parlé du secteur public, mais on a mentionné le privé sans aller plus loin. Comment est-ce que vous avez perçu les pétitions publiées ces derniers temps par le monde de l'entreprise et appelant à mettre l'environnement au cœur de la relance? Alors, je pense à deux pétitions en particulier. Celle à l'initiative de Jean-Laurent Bonnafé, administrateur général de BNP Paribas, et signée par plus de 90 grand patron, publié dans le journal Le Monde, donc c'était le 5 mai dernier. Et puis, celle de 155 grands patrons de multinationales de 33 pays, couvrant 34 secteurs économiques, paru donc dans les Échos le 20 mai, et soutenu par Antonio Guterres. Et vraiment, avec cette volonté affichée de mettre l'environnement donc dans ce plan de relance économique, vous en pensez quoi?
Moi, j'en pense que c'est très bien, et c'est en réalité, ça n'est pas du tout une surprise. La plupart des capitaines d'industrie que je connais, que ce soit en France ou à l'étranger, ont compris depuis plusieurs années que la transition énergétique et plus globalement écologique, c'est le véritable business de demain. Ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer des schémas industriels qui sont extrêmement dépendants du pétrole dans un contexte où le prix du pétrole va avoir une très grande volatilité dans les années qui viennent. On a déjà vu, là, il y a quelques semaines, le prix du baril qui est devenu négatif pendant quelques jours. Donc, ils savent qu'ils ont absolument besoin de se libérer de leur dépendance au pétrole. Ils savent que les énergies renouvelables, c'est la solution pour produire de l'électricité. Ils savent qu'on peut la stocker avec de l'hydrogène, de l'ammoniac. Donc, moi, quand je discute avec eux, l'obstacle principal auquel ils font face, c'est pas le désir pour eux d'entrer dans un monde soutenable. C'est pas le fait qu'ils perdraient de l'argent, c'est le fait que leur dépendance à un actionnariat très court-termiste rend très difficile pour eux des investissements verts. Et le fait que la manière dont on a organisé la concurrence internationale aujourd'hui entre les entreprises et leur dépendance à un actionnariat atomisé et très court-termiste fait que celui qui est vertueux est immédiatement pénalisé. Donc le seul moyen de relever ce défi, c'est d'inscrire des règles qui permettent de récompenser les vertueux. Et pour ça, par exemple, ça veut dire qu'il y a certainement une transformation de la gouvernance des entreprises à mettre en œuvre pour les libérer du diktat court-termiste des marchés financiers. Et il y a certainement, par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, l'extension, la remise en place et l'extension d'une taxe carbone. La taxe carbone s'imposant à tous, étant également imposée aux entreprises qui, jusqu'à une date récente, en tout cas, en étaient exemptées en France, et qui permet de valoriser les investissements qui aujourd'hui sont apparemment non rentables, tout simplement parce qu'on ne pénalise pas assez les émissions de carbone liées à l'usage du pétrole.
Mais cette taxe carbone, elle a suscité des crispations, on le sait aussi au sein de la société française notamment. Comment jouer de cette taxe carbone sans qu'il y ait un sentiment de punition aussi de la part des citoyens?
Oui, mais en fait, si vous voulez, le rapport Stern-Stiglitz, qui date de 2017, auquel j'ai contribué, était déjà très clair là-dessus. Mettre une taxe carbone sans l'accompagner avec de l'aide sociale auprès des ménages modestes qui sont piégés par l'augmentation du prix du pétrole à la pompe, c'est complètement contre-productif. Et c'est ce qu'on a vu en France. Donc, en réalité, la taxe carbone rapporte des recettes fiscales. Et avec ces recettes fiscales, vous financez un chèque énergie substantiel pour les ménages modestes qui sont piégés. C'est ce que le gouvernement actuel n'a pas voulu faire, et le prix à payer, ça a été évidemment les gilets jaunes pendant plus d'un an, ce qui était absolument prévisible. Donc moi, je pense, je n'interprète pas du tout la position du mouvement des gilets jaunes depuis un an comme un refus de la transition énergétique ou de la taxe carbone comme telle. Simplement, dans un contexte où les ménages modestes ne sont pas aidés, et donc sont abandonnés dans une situation où l'augmentation du prix à la pompe devient extrêmement piégeante pour eux. Où par ailleurs on a supprimé l'impôt sur la fortune et où les grandes entreprises les plus polluantes sont exemptées de la taxe carbone, évidemment, il y a une telle injustice que c'est inacceptable. Donc il faut réinstaurer une taxe carbone, donner de la visibilité de long terme, utiliser les recettes fiscales pour accompagner les ménages modestes et mettre fin aux exemptions et aux subventions publiques pour les entreprises les plus polluantes.
Et donc, ce que vous laissez entendre, Gaël Giraud, c'est que il faut systématiquement que l'État, quand il y a des aides ou quand il y a des politiques, que les aides soient conditionnées. Hein. On pense forcément à l'aide apportée à l'aéronautique. Hein. Les 7 milliards d'euros accordés à Air France KLM le 24 avril avaient suscité quelques réactions et quelques demandes de contrepartie environnementale. Et forcément, on se demande s'il n'y aurait pas nécessité aussi pour un État d'user de la contrainte s'il veut pouvoir avancer dans cette relance économique en respect de l'environnement.
Oui, c'est très clair, mais une contrainte qui doit pouvoir s'appliquer à tous. C'est ça le problème de la... Si vous voulez, on est piégé par une certaine idéologie qui n'a pas de fondement scientifique d'ailleurs, hein, de la concurrence pure et parfaite. Hein. La direction générale de la concurrence à Bruxelles, à la Commission européenne, est persuadée que toute politique sectorielle, toute stratégie industrielle de la part d'un État souverain, c'est une violation des sacro-saintes lois de la concurrence. En réalité, le concept de concurrence pure et parfaite n'a pas de sens analytique du point de vue de la théorie économique. En tout cas, je ne lui connais pas de sens convaincant, y compris du côté des théories les plus néoclassiques et les plus favorables au marché. Donc c'est une espèce de grand mythe qui nous paralyse complètement. Il faut se débarrasser de ce mythe. Il faut, comme vous le dites, imposer des contraintes qui obligent les entreprises à être vertueuses du côté du verdissement de leur processus industriel et qui obligent tout le monde à être vertueux, de manière à mettre fin à des disparités entre entreprises, vous voyez, entre vertueuses et non vertueuses, et mettre fin surtout au dumping à la fois social, sanitaire et écologique, qui donne une prime aux entreprises qui continuent de polluer.
Donc finalement, ce que vous nous dites, Gaël Giraud, face à ces tribunes qu'on a vues publiées dans la semaine écoulée, cette demande, cette volonté du monde de l'entreprise de vraiment coupler environnement et relance économique, vous dites, pour l'instant c'est sur le papier, mais que s'il n'y a pas de contraintes de l'État, on n'avancera pas juste avec le secteur privé, c'est-à-dire ce secteur privé ne pourra pas s'engager sur cette voie, même s'il y a une volonté.
Oui, ça va être très difficile et très long. À cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire du fait que la concurrence telle qu'elle est organisée aujourd'hui donne une prime aux moins vertueux, et à cause du court-termisme de l'actionnariat des entreprises. Mmh. Je prends l'exemple d'Engie. Hein, donc Isabelle Kocher, à la tête d'Engie, avait pris un certain nombre de positions qui étaient extrêmement courageuses, que j'ai saluées, et dont je continue de penser qu'elles étaient prophétiques, et elle s'est faite vider par l'actionnariat d'Engie. Et donc là, il y a une espèce de coup, alors non pas un coup d'État, mais un coup actionnarial qui a mis dehors une excellente PDG qui était extrêmement prophétique et prometteuse pour l'entreprise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes un PDG visionnaire, même si vous êtes un grand manager, vous pouvez être débarqué par votre actionnariat simplement parce que vous ne crachez pas suffisamment de cash dans l'immédiat. C'est ça qu'il faut réformer. Donc, vous voyez, c'est pas, et donc, la bonne volonté est indispensable, mais à titre personnel, ça fait longtemps que je n'ai aucun doute sur la bonne volonté des capitaines d'industrie éclairés, que ce soit en France ou ailleurs. Ce qu'il faut, c'est repenser la gouvernance des entreprises et permettre de libérer les entreprises du diktat du court-termisme actionnarial.
Sophie Swatton, sur cette question-là, sur les pétitions, la part que le secteur privé peut prendre?
Je crois que de s'en tenir qu'à la responsabilité sociale des entreprises et juste à une bonne volonté, c'est insuffisant. Alors ça ne veut pas dire être absolument punitif. Et... Non, mais c'est de re-réfléchir à ces partenariats publics-privés. Parce que dans les initiatives, alors effectivement, on a vu des pétitions, c'était assez étonnant, et de grands groupes qui ont aussi relocalisé leur production, se mettre au service justement de la production de gel, de masques, etc. pendant la pandémie. Et puis inversement, il y en a eu d'autres qui demandaient à ce qu'on s'habitue pas trop trop non plus à consommer et puis à avoir des règles un peu plus souples en matière de critères, ce qui est vraiment problématique. Et donc, pour rebondir sur cette idée de favoriser les statuts, c'est un petit peu ce qui avait été fait avec les Bicorp, hein, ces critères-là, et puis les critères ESS en général, hein, économie sociale et solidaire, c'est comment faire en sorte qu'effectivement, il y ait une réforme telle des entreprises qu'elles puissent être autorisées à ne pas uniquement tourner leur activité vers la rentabilité que du capital et avoir un intérêt collectif, une gouvernance plus démocratique, un plafond peut-être aussi des salaires, hein, mais en tout cas que les écarts salariaux soient entourés pour justement se permettre de prendre en compte d'autres critères, bien que la lucrativité soit importante, mais qu'elle reste limitée, comme c'est le cas dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, juste quelque chose sur la concurrence pure et parfaite, en complément de ce que disait Gaëlle Giraud, effectivement, elle récompense les entreprises les moins vertueuses, mais également, parallèlement, ça, elle pénalise, c'est important de le savoir aussi, celles qui essaient de bien faire, et notamment dans le secteur privé, il n'y a pas que des entreprises cotées en bourse, hein, il y a des toutes petites entreprises, il y a des PME, il y a de l'artisanat, et puis il y a les entreprises à but d'emploi, ces fameuses entreprises à but d'emploi des territoires zéro chômeur de longue durée, qui aujourd'hui, sous couvert de se faire accuser de concurrence déloyale, sont obligées de produire dans des niches, chaque année, et c'est pas évident hein, de produire et de générer un chiffre d'affaires qui leur permet de survivre. Et du coup, c'est vrai que si on met à échelle une coopération au niveau des territoires, et ben ça leur permet à ces EBE, ces entreprises à but d'emploi, d'être copiées, d'intégrer d'autres entreprises locales, hein, quand on est dans un modèle coopératif élargi, de prendre en compte ce partenariat public-privé pour qu'on puisse sortir de ces accusations permanentes de concurrence déloyale. Et puis, un dernier point, parce que la concurrence pure et parfaite n'existe jamais, c'est qu'il est aussi important, je parlais tout à l'heure de vision punitive, mais surtout aussi de pouvoir récompenser aussi les entreprises vertueuses. C'est important de donner des défis, des cadres, et ça veut dire de bien communiquer aussi sur le fait que les acquis de la taxe carbone hein, pourraient fonctionner comme un levier, comme des subventions à redistribuer. Et ça, c'est pas du tout ce qui a été perçu, et le gouvernement n'avait pas communiqué de cette manière. Donc, c'est aussi important que, bien sûr, qu'il y ait des critères mais très très forts au niveau des entreprises, mais que celles qui soient vertueuses soient aussi encouragées et aidées à changer dans leur modèle, business model, pour reprendre le terme qui a été employé.
En tout cas, on arrive quasiment au terme de notre émission, Gaëlle Giraud et Sophie Swatton. Peut-être une dernière question quand même, c'est on comprend par vos propos qu'il y a ce monde d'après qu'il faut rendre désirable, que la relance que vous appelez de vos voeux peut voir aussi émerger de nouveaux métiers, un autre rapport au travail. Comment faire en sorte peut-être de faire accepter une économie post-croissance qui révolutionne aussi nos modèles mentaux, Gaëlle Giraud?
Je suis bien d'accord avec vous que c'est un imaginaire d'une économie post-croissance qu'il faut mettre en œuvre. Post-croissance, ça ne veut pas dire décroissantiste, ça veut dire qu'on comprend que le PIB est un très mauvais indicateur de quoi que ce soit, et certainement pas un indicateur de prospérité. Comment est-ce qu'on le rend acceptable? En fait, moi je renverserai la question. Mon expérience à moi, c'est que les catégories populaires en France et en Europe de l'Ouest sont très favorables à un changement de modèle. Parce qu'elles sont victimes de la manière dont on a fétichisé le PIB depuis 40 ans. Et pour elles, les 40 dernières années, c'est pas une histoire tranquille d'accession à la prospérité, au contraire. C'est plutôt une histoire de déclassement. Mmh. Ce sont les élites qui ont bénéficié des 40 dernières années qu'il faut réussir à convaincre de changer de paradigme et de changer d'indicateur. Alors là, si vous voulez, pour aider à la conversion des imaginaires, il y a une première étape très élémentaire qu'il faut mettre en œuvre, à mon avis, et d'ailleurs à laquelle on a fait allusion tout à l'heure avec Sophie, qui est de changer d'indicateur macroéconomique. Les projets de loi de finances à l'Assemblée nationale continuent d'être discutés avec, comme quasiment unique indicateur d'évaluation du projet de loi de finances, le PIB. Supprimons le calcul du PIB et remplaçons-le par un certain nombre d'autres indicateurs. La commission Sen-Stiglitz de 2010, qui avait été commanditée par Nicolas Sarkozy, a dressé une liste d'une centaine d'indicateurs alternatifs, donc c'est pas les indicateurs alternatifs qui manquent. Et raisonnons et organisons le débat public avec ces indicateurs-là.
Une révolution sur ce terrain économique. 30 secondes, Sophie Swatton, pour répondre à ma question.
Alors, en 30 secondes, je dirais que... Oui, je suis complètement d'accord. Et puis les jeunes, ça viendra aussi des jeunes, c'est-à-dire qu'on voit maintenant cette idée du sens du travail dont on a parlé. Donc c'est pas de travail dont on manque, c'est pas d'activité de travail, c'est d'emploi rémunéré. Et les jeunes aujourd'hui veulent une éthique du travail, veulent du sens dans du travail. On l'a vu avec Simon Roger tout à l'heure hein, sur ces Fab Labs, ce low-tech, cette économie ouverte. Bah, je crois que les réponses viendront aussi de ces nouvelles histoires et ces nouveaux métiers que pourront, on l'espère, créer cette nouvelle génération.
Merci Gaël Giraud. Nous pouvons conseiller la lecture de votre article « Financer la décarbonation » paru dans la revue Esprit de mars 2020. Et Sophie Swatton, je rappelle le titre de votre dernier livre « Le revenu de transition écologique, mode d'emploi », un livre paru aux presses universitaires de France. Et pour en savoir plus, comme d'habitude, direction le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, réécoute, téléchargement à votre disposition. Samedi prochain, de la mer à l'assiette, la pêche durable sera au cœur de nos préoccupations avec nos deux invités, le chef cuisinier Christopher Coutenceau et le biologiste Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom.